pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 15e dimanche. En ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, s'assoit au bord de la mer. Des foules nombreuses se rassemblent auprès de lui, au point qu'il monte dans une barque et s'y assoit, alors que la foule se tient sur le rivage. Il leur parle beaucoup en paraboles. Il dit,
« Voici que le semeur sort pour semer. Quand il sème, certains tombent au bord du chemin, et les oiseaux viennent les dévorer. D'autres tombent sur un sol rocheux, où il n'y a pas beaucoup de terre. Ils lèvent aussitôt, parce qu'il n'y a pas de profondeur de terre, et quand le soleil se lève, ils sont brûlés, et ils sèchent, car ils n'ont pas de racines. D'autres tombent sur les épines montent et les étouffent. D'autres tombent sur la terre, la bonne, et ils donnent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles, qu'il écoute. »
Les disciples viennent auprès de lui et lui disent,
« Pourquoi est-ce en parabole que tu leur parles ?»
Il répond et leur dit,
« C'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du règne des cieux. Mais à cela, ce n'est pas donné. En effet, celui qui a, il lui sera donné, il sera dans l'abondance. Par contre, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pourquoi je leur parle en parabole, car ils regardent sans regarder, et ils écoutent sans écouter ni comprendre. Mais pour vous, bienheureux vos yeux, ils regardent. Et vos oreilles, elles écoutent. Amen, je vous le dis, de nombreux prophètes, des justes, ont désiré voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Écoutez ce que vous écoutez, et ils ne l'ont pas écouté. Vous, écoutez la parabole du semeur. Chez celui qui écoute la parole du règne, il ne comprend pas. Le mauvais vient, il arrache ce qui a été semé dans son cœur. Celui-ci est celui qui est ensemencé au bord du chemin. Celui qui est ensemencé sur le sol rocheux, c'est celui qui écoute la parole et la reçoit aussitôt avec joie, et il n'a pas de racine en lui-même. Mais il dure peu que surviennent tourments ou persécutions à cause de la parole, aussitôt il chute. Celui qui est ensemencé dans les épines, c'est celui qui écoute la parole, et chez qui le souci du monde et la tromperie de la richesse étouffent la parole qui devient sans fruit. Celui qui est ensemencé sur la belle terre, c'est celui qui écoute la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Amis auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Voilà un texte qui est pas mal long, que l'on a l'impression parfois de connaître par cœur, et pourtant ce n'est pas un texte toujours très facile.
Justement Georges, qui est le semeur? Qu'est-ce que la semence? Qui sont les terrains? Les rendements différents sont-ils dus à des qualités différentes de grains ou au terrain lui-même?
Oui, d'autre part, la discussion entre Jésus et ses disciples, à certains moments, peut nous choquer. Pourquoi certains peuvent connaître le mystère de Dieu et d'autres ne peuvent pas le connaître? Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole si ça n'est pas compris d'un grand nombre?
L'explication de la parabole est-elle de Jésus lui-même ou est-ce le fruit de la réflexion des premiers chrétiens qui ont appliqué la parabole à leur situation?
Voilà donc bien des questions que nous devrons garder en mémoire. Mais citons D'abord, le texte dans le récit de Matthieu. Ici, nous ne sommes pas au tout début de la mission de Jésus. Jésus a déjà prêché son évangile. Il a rassemblé des disciples. Il a même choisi 12 d'entre eux pour en faire ses envoyés, ses apôtres. Il a aussi rencontré des oppositions sérieuses, notamment celle des pharisiens, qui racontent que Jésus fait des guérisons par la puissance du diable. Celui-ci ne chasse les démons que par Beelzeboul, le chef des démons, disent-ils. Même les guérisons miraculeuses n'ont pas entraîné davantage l'adhésion de certaines populations juives dans les villages de Galilée. Écoutons ce que nous dit Matthieu.
Malheureuse es-tu, Chorazin. Malheureuse es-tu, Bethsaïda. Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, des villes de population païenne, il y a longtemps qu'elles se seraient converties.
Oui, même Jean et ses disciples sont sceptiques par rapport à la mission de Jésus. Jean le Baptiste envoie en effet quelques-uns des siens demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le Messie ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Et enfin, eh bien, la famille elle-même de Jésus ne croit pas en sa mission. Dans le texte de Marc, on nous dit « Les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car il disait « Il a perdu la tête ».
Pourquoi Jésus n'est-il pas mieux accueilli ? Les reproches qu'on lui fait sont-ils fondés ? Est-il vraiment cet envoyé de Dieu qu'il prétend être ?
Voilà sans doute des questions que se posent les disciples eux-mêmes et qui peut-être vont remettre en cause leur attachement à leur maître. Ces événements doivent aussi ébranler les foules. Alors, c'est probablement à ce doute, à ces questions, à ces remises en cause que Jésus veut répondre par la parabole du semeur.
Le semeur sort pour semer.
Eh bien, ce semeur qui sort pour semer, c'est Jésus lui-même, puisque le récit vient de nous dire « Jésus sort de la maison ». Et que sème-t-il, ce semeur ? Eh bien, il sème la parole de Dieu, comme le récit vient aussi de nous l'indiquer. Jésus s'assoit et des foules se rassemblent auprès de lui. S'asseoir, c'est la position habituelle du maître, du rabbi, lorsqu'il enseigne. Cette comparaison entre les semailles et l'enseignement de la parole de Dieu est en effet, d'une certaine manière, on peut dire traditionnelle. Les écrits bibliques connaissent déjà la comparaison entre la parole de Dieu et la terre qui produit. Écoutons ce que nous dit le prophète Isaïe au chapitre 55.
« Comme la pluie descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir saturé et fait bourgeonner la terre, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans avoir accompli ma volonté. »
Et de même, dans un écrit juif qui s'appelle l'Apocalypse d'Esdras, on trouve une comparaison qu'on peut dire proche de celle de Jésus.
« Dieu, tu as dit, écoute-moi, prête attention à mes paroles. Aujourd'hui, je sème ma règle de vie dans votre cœur. Elle portera du fruit en vous. Vos pères ont reçu la règle, mais ils n'ont pas pris soin d'elle. Ils reçurent mes préceptes, mais ils ne les ont pas suivis. Pour autant, le fruit de la règle de vie ne fut pas perdu, mais ceux qui la reçurent se sont perdus, car ils n'ont pas gardé ce qu'il avait été semé en eux. »
Ils n'ont pas gardé ce qui avait été semé en eux. Jésus va montrer que les grains semés par le semeur ne produiront pas tous du fruit. Peut-être que pour bien comprendre cette comparaison de Jésus, il faut imaginer comment se faisaient alors les semailles. Elle se faisait à la volée, tout en marchant. Et on ne labourait la terre qu'après avoir semé. Et la qualité de la terre, bien sûr, n'était pas égale partout dans le champ. Pour aller d'ailleurs d'un champ à l'autre, on passait à travers les champs et à la longue, cela créait des sortes de quasi-sentiers où le sol est tapé dur et les grains qui tombent à cet endroit, eh bien, vont être mangés par les oiseaux. Ils ne seront pas enfouis en terre. En bordure du champ, il y a aussi des endroits où on voit presque la roche affleurée. Ce qui pousse là ne pourra pas faire des racines profondes. Et alors ils seront séchés aussitôt que le soleil viendra. D'autres endroits sont pleins d'épines sauvages. et ces épines seront retournées avec les grains par la charrue, et les racines des épines et du blé vont se mêler. Enfin, il y a tous les grains qui vont tomber au bord du chemin. Alors, tous ces grains-là, sur le sol rocheux, dans les épines, eh bien, tout cela ne fera que la semence ne sera pas féconde. Le paysan de la Galilée aurait pu faire sien ce proverbe berbère, si le paysan savait tous les malheurs qui vont arriver à sa semence, jamais il ne sèmerait. Eh bien, toute cette semence qui ne va pas produire de fruits ou qui n'en produira que très peu, cela fait penser aux insuccès de la parole de Jésus dont nous avons parlé tout à l'heure. Écoutons encore le quatrième livre d'Esdras.
De même que le paysan qui sème beaucoup ne voit pas toute la semence levée au temps de la croissance, ainsi, de ceux qui sont semés dans le monde, tous ne seront pas sauvés.
Par contre, il y aura des grains qui seront féconds et qui vont même rendre jusqu'à 160, 30 pour un, dit Jésus. C'était des rendements exceptionnels, semble-t-il, pour le lieu et pour l'époque, puisqu'on nous dit que le rendement habituel était de 7,5 pour un, et qu'il était parfois de 10 lors d'une très très bonne récolte. Eh bien, ceux qui vont porter du fruit en abondance, Jésus nous dit que cela est demandé à ses disciples. Écoutons ce qu'il dit en Saint Jean.
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. » Qui a des oreilles, qui l'écoute?
Oui, la parabole est assez explicite. Les auditeurs de Jésus savent bien qu'il ne donne pas là un cours d'agriculture. Au-delà des images, il appartient donc à chacun de comprendre le sens figuré et d'en faire l'application à sa propre vie. Et les disciples ont sans doute bien compris le message de Jésus, malgré les échecs qu'il essuie auprès des scribes, des pharisiens et même de sa famille. La mission de Jésus connaîtra des succès. Mais de fait, ce seront surtout des pauvres, des marginaux, des malades, qui vont accueillir la parole. Eux qui sont prêts à accueillir le Dieu de Jésus, un Dieu amour, un Dieu qui se montre davantage père que juge, un père qui veut sauver et non pas condamner.
L'interrogation des disciples pourtant demeure. Pourquoi tous ne sont pas rejoints par cette parole de Jésus, si Jésus est bien le Messie de Dieu, son envoyé? Est-ce que le prophète Zacharie n'avait pas dit du Messie, « Voici un homme, le Messie, dont le nom est Germe. Là où il est, quelque chose va germer. »
Alors, lorsque Jésus va être seul avec ses disciples, eh bien, il va poursuivre son explication. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur dit, « Portez du fruit, c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs. » Car connaître le mystère du règne de Dieu, c'est quelque chose qui est donné. Alors comment peut-on traduire ça? On ne connaît vraiment Dieu qu'en aimant. Et c'est Dieu qui donne la force d'aimer gratuitement. Car c'est lui toujours qui aime le premier. C'est en effet Dieu qui est la source de l'amour. Et qui se fait donc connaître comme un père. Et c'est parce qu'il se donne à nous comme père que nous pouvons devenir son fils ou sa fille. Il s'agit donc, pour chaque être humain, d'être accueillant à cette action de l'Esprit de Dieu en lui. Mais il y a des façons de voir, de penser, de vivre, qui ferment le cœur au mystère de cette communion avec Dieu, le Père tout aimant. On peut même dire que Jean le Baptiste et ses disciples n'ont pas vraiment pu pénétrer le mystère du Dieu Père parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu manifeste sa colère de juge en anéantissant les malfaisants et les pécheurs. Dieu est amour et pardon, nous dit Jésus. Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'on peut comprendre la remarque que Jésus fait à propos de Jean le Baptiste? Il nous dit que c'est seul celui qui s'ouvre à Dieu comme un Père miséricordieux et plein de grâce. Eh bien, celui-là, fut-il le plus petit des fils de Dieu, il est plus grand que Jean. De la même façon, les scribes et les pharisiens, eux qui se vantent d'être des justes parce qu'ils pratiquent scrupuleusement tous les préceptes de la Torah, et qui pensent, à cause de cela, avoir des droits sur Dieu, eh bien de même ceux-là, les scribes, les pharisiens, ne se laissent pas aimer gratuitement par Dieu Père. Et en agissant ainsi, ils se ferment au don de son amour. Jésus leur dira,
« Allez apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non pas l'offrande du temple ». Ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler, mais les pécheurs.
Oui, tous ceux qui tirent fierté et vanité de leur droiture ne peuvent pas comprendre le mystère de l'amour de Dieu. Et donc ils ne peuvent pas comprendre pourquoi Jésus se tient à la même table que les pécheurs. Ils vont même jusqu'à dire, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. On ne peut pas comprendre la bonté de Jésus si on est fermé à l'amour. Jésus, lui, s'approche des pécheurs pour leur témoigner que Dieu les aime et leur pardonne. Et les scribes et les pharisiens, eux, ils voient d'abord la nécessité pour le pécheur de réparer ses fautes afin de pouvoir devenir digne de Dieu. Alors, en s'enfermant dans cette vision d'un Dieu dont on cherche à mériter l'amour, à être digne de l'amour, les scribes et les pharisiens ne peuvent pas accueillir le don de l'amour, un amour qui est, comme l'on dit, grâce. Dieu, parce qu'il n'est qu'amour, ne peut aimer qu'en se donnant gratuitement, sans condition. Et il ne sera accueilli que dans un cœur qui le reçoit gratuitement, qui se laisse aimer simplement. Enfin, ceux des Juifs qui vont tirer gloire d'être membres du peuple choisi par Dieu, et qui à cause de cela vont se mettre à mépriser les païens, ceux-là aussi se ferment au mystère de Dieu. Jésus nous dira que bien des païens, au contraire, se sont ouverts de fait à la grâce de Dieu. Et il nomme le centurion romain qui voit en Jésus ce représentant de Dieu et qui s'écrie « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Alors, bien, de lui, Jésus va dire
« Amen, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest prendre place au festin dans le règne de Dieu, tandis que les héritiers du règne seront jetés dehors. »
Oui, même si l'on est membre du peuple de Dieu, on ne peut pas connaître le Dieu Père de Jésus sans reconnaître qu'on n'a pas plus de titre à être aimé de Dieu, à devenir son fils et sa fille, que ne peut en avoir un païen. Alors, l'apôtre Paul avait bien compris cela. Écoutons ce qu'il dit aux chrétiens d'Éphèse.
Vous avez appris la grâce que Dieu m'a accordée. Par révélation de Dieu, j'ai eu connaissance du mystère du Christ. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse.
À vous, il est donné de connaître les mystères du règne de Dieu. Voilà ce qu'est le mystère de l'amour. Connaître le règne, dans le fond, c'est connaître ce que c'est qu'aimer en vérité, ce que c'est que se laisser aimer en vérité par Dieu. Cette vérité de l'amour qui est au-delà de l'amour-passion, au-delà même de l'amour d'amitié, et qui est l'amour de bonté. Et cela est donné à tout être humain, par Dieu, mais bien sûr par des chemins différents. Le bouddhiste ne connaîtra pas ce mystère de l'amour de la même manière que le chrétien. L'incroyant même peut connaître ce mystère de l'amour. Je cite souvent André Comte-Sponville, qui a écrit des pages merveilleuses sur cet amour agapé, cet amour amitié, cet amour de bonté. Il a certainement connu ce mystère de l'amour, et pourtant lui dit « Je suis un incroyant, je ne pense pas que Dieu existe ». Eh bien, André Comte-Sponville, sans doute au-delà de la mort, reconnaîtra le Dieu dont il a déjà vécu de l'amour. Oui, tout être humain, qu'il soit juif ou païen, chrétien ou incroyant, est invité par le Père à entrer dans sa communion d'amour. Et cela se fait sans aucun mérite de notre part, sans revendiquer aucun mérite. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul aux Romains.
« Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. »
Oui, connaître le mystère de Dieu est un don. Et l'unique condition pour pénétrer ce mystère, eh bien, c'est de l'accueillir dans la pure gratuité, sachant qu'on ne peut se prévaloir de rien pour le mériter. Et c'est pour cela que les plus petits, les plus pauvres, sont souvent les mieux préparés à entrer dans ce mystère de Dieu, dans ce mystère de l'amour. À celui qui a, il sera donné, dit Jésus. Peut-être que nous pourrions traduire « à celui qui accueille l'amour gratuit de Dieu dans son cœur, eh bien, il sera donné en abondance. » Et Jésus ajoute « à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé », ce qui peut vouloir dire « pour celui qui se refuse à accueillir gratuitement l'amour, même sa place comme membre du peuple de Dieu va lui échapper ». Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus voulait nous dire lorsqu'il disait que bien des publicains et des prostituées et des païens entreront dans l'amour de Dieu avant ceux qui se croient des justes devant Dieu? Oui, ces justes n'ont pas le sens de la gratuité dans leur cœur. Ils n'ont pas l'humilité de se reconnaître pauvres d'amour. Ceux qui se vantent d'être des justes, la Bible nous dit qu'ils ont le cœur épaissi. Ils cherchent toujours ce qui est rentable et ils ne voient donc qu'en surface. Ils ne voient pas la vraie profondeur des êtres, une profondeur qui est invisible aux yeux et qui ne se voit qu'avec le cœur. Ils sont imbus de leurs propres pensées, de leurs propres mérites. Ils n'ont pas une oreille attentive au petit, à celui qui ne fait pas de bruit, à celui qui ne s'impose pas. Alors ils ne peuvent pas être attentifs à la voix de l'amour de Dieu, cette voix qui se dit, qui s'est dit, en Jésus doux et humble de cœur, et qui se redit encore à travers les petits et les pauvres qui nous entourent. C'est de ceux qui revendiquaient leur droiture de cœur devant Dieu et qui se fermaient ainsi à la gratuité de l'amour que Jésus disait « Je leur parle en parabole parce qu'ils regardent sans regarder, ils écoutent sans écouter. »
Comment comprendre cette remarque de Jésus?
Oui, pourquoi parle-t-il en parabole? Eh bien, on peut dire d'abord que la parabole est un exemple presque toujours familier de la vie quotidienne. Et c'est donc un enseignement qui peut être compris, même des gens simples, de ceux qui n'ont pas fait d'études. Mais méfions-nous, parce qu'en même temps, sous cette apparente simplicité, sous cette apparente facilité, la parabole n'est pas toujours comprise, car elle interroge. Elle demande à celui, à celle qui l'écoute, de se laisser déranger par la leçon que contient la parabole pour lui. Pour elle, cette parabole fait appel à l'humilité de qui l'écoute pour qu'il se laisse questionner. Elle s'adresse, en plus, à un cœur qui aime et qui est prêt à s'engager, à engager toute sa liberté pour vivre la vérité que la parabole va lui faire découvrir. Oui, une parabole laisse deviner le mystère de Dieu, de ce Dieu qui est toujours à la fois présent, mais aussi toujours caché. Dieu caché dans la création, Dieu caché aussi dans la personne de Jésus. Ce que Jésus dit, ce qu'il fait, laisse deviner son lien avec Dieu, mais rien ne s'impose avec force au premier abord. Alors la parabole nous force à aller plus profond que le regard superficiel. Elle permet à Jésus de livrer à tous le message de Dieu. Mais en même temps, elle incite chacun à le comprendre et à le comprendre en fonction de sa disponibilité. Une disponibilité non seulement à se laisser éclairer dans son intelligence, mais une disponibilité qui est liée à se laisser aimer davantage. Ne comprend vraiment la parabole que celui, celle qui a la volonté de vivre la vérité, qu'on y découvre, qu'il va y découvrir. Celui qui n'écoute la parabole que d'une oreille distraite, celui qui ne voit la vie que d'un regard superficiel, celui qui n'engage pas son être profond, son cœur, sa volonté dans ses relations humaines, celui-là ne peut pas pénétrer le mystère de Dieu, le mystère de l'amour vrai, et donc de fait, celui-là refuse l'évangile de Jésus. On ne comprend en vérité la parabole de Dieu que si l'on veut rendre cette parole active dans notre vie. Elle ne pourra pas se révéler à nous si elle reste extérieure à notre vécu le plus profond. Concluons, on ne peut comprendre l'évangile pleinement qu'en le vivant dans le quotidien, qu'en se laissant transformer par lui.
Reprenons notre question du début. L'explication de la parabole est-elle de Jésus lui-même ou est-ce le fruit de la réflexion des premiers chrétiens qui ont appliqué la parabole à leur situation?
Eh bien oui, on peut penser que l'explication de la parabole, qui date des années 50 et 100, remonte à cette époque où les premiers chrétiens ont connu la persécution. Mais on peut dire que nous pouvons toujours l'appliquer car la persécution ou les obstacles à la fécondité de la parole sont des obstacles de tous les jours et ils sont peut-être de deux ordres, soit la vie facile, une vie facile que peut procurer la richesse et qui va amener à la tiédeur de la charité, de l'amour, ou soit le courage qui nous manque d'affronter ceux qui se moquent de l'évangile et qui par là même combattent les disciples. Encore aujourd'hui, il appartient à chaque disciple de Jésus de se laisser interroger quelle est la bonne terre, quel est le bon terreau où la semence de l'évangile peut lever. Jésus nous redit que ce bon terreau est formé des gens simples, des humbles devant Dieu et leurs frères. Et mon ami Albert était sans doute de cela, lui qui disait, lorsqu'il me parlait de la réussite de son mariage, « Oh, tu sais, nous, ma femme et moi, on n'est pas meilleurs que les autres, nous, on a juste fait qu'accueillir. » Il avait accueilli la grâce de Dieu dans sa vie.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 514-254-8750. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.